compliment qu'on puisse me faire pour quelqu'un fraîche et que c'est déjà clair et que ça encourage. Effectivement, c'est le plus beau compliment, le plus bel encouragement qu'on peut recevoir. Moi, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous à Montélimar. Alors effectivement, ça fait un peu drôle, mais c'est toujours le même plaisir. Alors, je suis venu avec mon épouse et ma belle-fille. Alors, elles sont américaines. Et on habite dans le Colorado, mais pas le Colorado des États-Unis, le Colorado provençal. Voilà. Et la semaine, je rejoins les régiments de la 11e brigade parachutiste, puisque je suis aumônier militaire, comme tu l'as dit, Elodie. Et j'aime en même temps, comme j'ai fait théologie, creuser la parole et la confronter avec les troupes que je soutiens en France et puis dans le désert à l'étranger aussi. Et d'ailleurs, je vais être projeté à nouveau dans le désert dans pas longtemps, et du coup pendant quelques mois je serai absent, mais je vous donnerai après des nouvelles en rentrant, et puis à l'occasion de revenir prêcher avec joie parmi vous. Alors, ce matin, je crois qu'on a cité Jean 4, et moi j'avais à cœur de prendre Jean 8, les versets 1 à 11, si vous voulez suivre dans vos bibles, et si tu peux afficher là, voilà, parfait, il n'y a pas tout qui s'affiche, bon, c'est pas grave. C'est l'évangile de Jean, chapitre 8, les versets 1 à 11. Un message qui est souvent intitulé « Jésus et la femme adultère » ou « Jésus pardonne la femme adultère ». C'est un passage qui est très connu, probablement vous l'avez déjà lu, relu, et j'aurais aimé le réaborder justement avec une autre perspective pour voir à quel point c'est un passage qui est profond. Alors, Jean 8, verset 1 à 11, je dirai à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous dit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, Jésus, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Voilà pour notre lecture de ce matin. Alors je vois que vous lisez la Bible aussi sur les smartphones, ou peut-être vous avez une version papier. Je crois que c'est plus lisible sur les versions papier, vous verrez. Souvent ce passage, il est entrecroché. Et s'il est entrecroché, ça veut dire que il était absent dans un manuscrit, ou alors qu'il était à d'autres endroits dans l'Évangile. Et je me suis demandé pourquoi. Pourquoi ce passage, soit il était absent dans un manuscrit, soit on essayait de le mettre ailleurs, ou des fois on le mettait à la fin de l'Évangile de Jean. Et je suis tombé sur quelque chose d'assez, bizarre. C'est qu'au 4e siècle après Jésus, il y a un docteur de l'Église qui s'appelle Saint Augustin, qui se plaignait que des maris jaloux, c'est comme ça qu'ils les appelaient, arrachent cette page de leurs évangiles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas envisager que Jésus pardonne à la femme adultère. Ils ne pouvaient envisager que Jésus donne une telle liberté, une telle dignité à cette femme. Alors, ils arrachaient cette page. Et saint Augustin disait, ah non, arrêtez, ça fait partie des Écritures. Mais malheureusement, ça va se vérifier, puisque dans l'histoire, ce passage continuera d'être absent de certains manuscrits. Et probablement que les scribes l'ont gardé sur une feuille volante. Et au bout d'un moment, on s'est dit, bon, il faut quand même le remettre parce que c'est un récit authentique. Donc il y en a qui l'ont mis au chapitre 8 de l'évangile de Jean, puis il y en a qui l'ont mis à la fin, comme un bonus. Mais il y en a qui continuent d'ailleurs de l'enlever pour dire à quel point ce passage a gêné dans l'histoire, à quel point ce pardon, il a gêné dans l'histoire. Et j'ai trouvé ça intéressant de le dire, parce que ça donne un peu le cas de la culture, c'est un peu la minute du théologien, un peu la culture de ce passage, qui montre que dans l'histoire, c'est un passage qui a vraiment gêné. C'est un passage qui a gêné. Et une autre chose aussi, j'ai envie de dire malheureusement, c'est que dans l'histoire, il y a beaucoup de théologiens, enfin en tout cas, j'en ai vu pas mal, dans l'histoire de l'Église, qui, en interprétant ce passage, ont beaucoup plus retenu le péché de cette femme que le pardon de Jésus. Encore une fois, c'est pour dire à quel point ce qu'a fait Jésus-là, c'est pas anodin. Ce qu'a fait Jésus-là, c'est énorme. Mais dans tous les siècles, il y a des gens qui se sont creusés la tête en disant « Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas possible. L'adultère, c'est grave, il pardonne comme ça. » C'est pour dire à quel point ça a fait couler beaucoup d'encre et ça a arraché beaucoup de pages. Enfin, mais enfin, dans les Bibles électroniques, au moins, on peut pas arracher son écran et ça reste là. Voilà pour la minute, pour donner le cadre un peu à ce passage. Si vous le relisez ou vous méditez sur ça plus tard, vous penserez à toutes ces choses. Alors, de nos jours, on est loin de ça, parce qu'évidemment, l'adultère, c'est quelque chose qui se répand. Oui, c'est courant dans les médias, la télé, dans les séries. Ça se démocratise. Jusqu'à, moi j'ai vu des sites de rencontres adultères avec des slogans du type « Tout le monde peut se tromper » ou alors « On ne propose pas de carte de fidélité ». Donc c'est dire, enfin, voilà, c'est marrant, mais c'est dire où on en est. Hein. Pourtant, du point de vue biblique, effectivement, l'adultère c'est un péché grave, c'est une entorse à la loi divine. Parce que ça met en couple la structure familiale, la société, beaucoup de choses, et puis même l'idée que Dieu se fait de la fidélité de façon générale. Alors revenons à notre passage. Si on fait un état des lieux, qu'est-ce qu'on a? Jésus, il va enseigner au temple. Et les pharisiens, c'est-à-dire un courant du judaïsme, une petite secte du judaïsme de l'époque, ils vont l'interpeller sur un cas d'adultère. Et ils veulent que la loi de Dieu soit appliquée. Elle a commis l'adultère, il faut qu'elle soit lapidée. Donc la situation est très simple. Pourtant, il y a certains indices dans ce passage qui nous amènent à penser qu'ils ne veulent pas vraiment la loi et la justice, ces pharisiens. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle est prise en flagrant délit d'adultère, mais il manque au moins deux personnes. Il manque l'amant, et puis il manque le mari. Donc ça veut dire que le souci d'équité des pharisiens, c'était pas vraiment ça. Par contre, ils ont pris quelqu'un, ils étaient contents de pouvoir la condamner sans aucune arrière-pensée. Et ça, c'est aussi typique maintenant de notre époque. On est satisfait de trouver quelqu'un qui a tous les défauts, parce que nous, on est parfait. Ces gens, ils ont des défauts, on leur met tout sur le dos. On va les condamner, on va les accabler. Et là, on voit, c'est vraiment ce que font les pharisiens. Aujourd'hui, on fait beaucoup avec les réseaux sociaux, on accable beaucoup de gens, on les condamne. À l'époque, ça se faisait aussi en public, et là, en plus, c'est au cœur du temple. Hein. C'est pour dire, au cœur du temple, on appelle quelqu'un qui a péché, qui a chuté, et on va l'humilier en public. Et on va s'en servir. Alors, ce piège est mis en place. Les pharisiens posent une question simple. Est-ce qu'il faut lapider cette femme? Et vous allez me dire, Jésus, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il pardonne les péchés et il pourrait le faire sans avoir à se justifier à personne. On est d'accord sur ça? Si vous lisez Jean de 1 à 10, on voit que Jésus, il pardonne, qu'il guérit, qu'il aime les pécheurs. Il condamne le péché, mais il aime les pécheurs. Et il les pardonne pour les élever, pour les transformer. C'est vraiment ce qu'on a voulu chanter ce matin. Ben, là, on le voit dans tout l'évangile de Jean. Donc, quand on arrive au chapitre 11, au chapitre 8 de l'évangile de Jean, qui pourrait croire que Jésus condamnerait cette femme? Personne. Personne. Sauf les maris jaloux qui arrachaient les pages. Mais franchement, nous, aujourd'hui, on lit ça, on dit, mais il ne peut pas la condamner. Il peut la pardonner, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc on sait que d'une façon ou d'une autre, elle va s'en sortir. Ce qui pose la question de, est-ce que ce passage a vraiment un enjeu? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu dans ce passage? Jésus, il peut débarquer en disant, laissez-la tranquille, moi je lui pardonne son péché, vous partez. Mais je vous suggère quelque chose, c'est qu'il ne pouvait pas faire ça. Et ce n'est pas ce qu'il a fait. Et j'aimerais vous le montrer, parce que c'est ça qui va montrer toute la profondeur de ce passage, toute la sagesse que Jésus avait, de savoir comment il a pu sauver cette femme, et surtout lui-même se sortir de ce piège. Parce qu'au verset 6, il est écrit que le but, c'est d'accuser lui. S'il est accusé, le ministère, c'est fini. Il ne faut pas qu'il y ait d'accusation sur son ministère. Donc, c'est un piège qui a au moins, moi c'est comme ça que j'analyse, mais il y a au moins trois facettes fondamentales dans ce piège qui montrent que Jésus ne pouvait pas débarquer et pardonner à cette femme comme ça. Il fallait d'abord qu'il accomplisse des choses. Et la première facette de ce piège, c'est que ça pose un conflit entre la loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, et les privilèges du préfet romain. Alors je m'explique, Israël était sous occupation romaine. Ce qui veut dire que seul le préfet romain avait le droit de condamner à mort quelqu'un. En même temps, la loi de Moïse dit qu'il faut lapider dans ce cas-là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez la petite peau de banane qui est posée là? Parce que si Jésus il est pour la condamnation à mort, ce sera conforme à la loi divine. Mais on va dire cet homme-là, il se prend pour le préfet romain, mais il faut l'arrêter, c'est un hors-la-loi. Ne l'écoutez pas, c'est un révolutionnaire. Mais lui, il ne veut pas tomber dans ça. Donc si Jésus, il dit « lapidez-la », qu'est-ce qui va se passer? On va dire « oulala !» On va appeler les autorités romaines, on va dire « cet homme-là, c'est un hors-la-loi. Mettez-le en prison. » Et c'est fini. Parce que c'était très grave de condamner à mort à la place des Romains à l'époque. On ne le faisait pas. D'un autre côté, si Jésus, il est contre cette lapidation, qu'est-ce qu'on va dire? Regardez, il n'écoute pas la loi de Moïse. C'est un rebelle à la loi de Moïse. Il ne veut pas l'appliquer, il ne veut pas la lapider. C'est pas un enseignant juif, c'est un faux enseignant juif. Il n'est pas du judaïsme, il jette à la poubelle des siècles de fidélité à la loi. On ne peut pas l'écouter, cet homme-là. C'est pas un enseignant juif. Terminé, le ministère. Vous voyez, derrière le piège, ce qu'il y a, c'est un vieux débat de savoir on obéit qui, la loi des hommes ou la loi de Dieu. Alors, il relance ce vieux débat, et c'est pour ça que Jésus ne répond pas tout de suite. Mais là, s'il répond oui ou non, s'il est pour ou contre la lapidation de cette femme, dans tous les cas, ça va le mettre à mal. Soit il se met à dos le préfet romain, il est en prison, soit il se met à dos tous les juifs qui vont dire il méprise la loi de Dieu. Et donc, puisqu'il méprise la loi de Dieu, on ne l'écoute pas. Ce qui nous amène à un deuxième dilemme que je vous suggère. C'est un dilemme entre, dans ce passage, de savoir s'il faut lapider cette femme ou pas en cas d'adultère, entre le respect de la loi de Moïse et la mission de Jésus. Parce qu'en Jean 3, 17, il est écrit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc on tombe sur le même dilemme. Si Jésus il est pour la condamnation, c'est conforme à la loi divine. On va dire que c'est un bon enseignant juif, il applique la loi telle qu'elle est écrite. Mais il prend un rôle qui dit qu'il n'est pas venu prendre, c'est-à-dire « je viens sauver l'humanité ». Et ce n'est pas en condamnant les gens qu'on sauve l'humanité. Donc si il la condamne, on va dire « c'est un bon enseignant juif, par contre ton ministère de pardon de réconciliation, bah, en fait ce n'est pas ça ton ministère, c'est un ministère de condamnation ». Et c'est pour ça que là, ça le mettra en contradiction. En même temps, si il est contre la loi et s'il est contre cette lapidation, on va dire « alors la loi, on en fait quoi? On n'obéit plus? Tu envoies ce message à tout le monde? Bon, ben, au moins, on n'obéit plus à la loi, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. » Donc s'il est contre, il sera lui-même de deux façons, soit en tant qu'enseignant juif qui obéit à la loi, soit en tant que Jésus qui a ce ministère de réconciliation et de pardon. Donc c'est tout ça qu'il y a derrière ce piège. On ne le voit pas nous forcément quand on lit ça, mais il y avait vraiment tout ça qui se pose. Et puis ça pose... Ah, troisième dilemme, alors je vais le dire de façon un peu ironique, c'est un dilemme entre la mission de Jésus et la mission de Jésus. Alors, c'est ironique parce que la mission de Jésus, elle est double. Il dit qu'il vient accomplir la loi à notre place. Donc, il doit accomplir la loi. Donc, il doit obéir à la loi. Mais, en même temps, il dit que sa mission, c'est aussi de sauver l'humanité. Donc, c'est quelle mission que tu remplis? Tu accomplis la loi et du coup, tu appliques cette loi-là, dans ce cas-là? Ou alors tu n'appliques pas la loi à notre place, et puis tu la sauves. Mais il faut faire un choix. Il va falloir qu'il décide. Soit il accomplit la loi, soit il sauve cette femme. Soit il sauve l'humanité, soit il pose la condamnation. Donc voilà tous les enjeux de ce passage. Il y en aurait d'autres, mais moi je ne voulais citer que ces trois ce matin. Un dilemme entre la loi des hommes et la loi de Dieu, un dilemme entre... la mission de Jésus est la loi de Dieu. Est-ce que Jésus il est là pour sauver, guérir, pardonner, ou est-ce qu'il est là pour appliquer la loi? Ah oui, mais il dit qu'il vient l'accomplir. Ah oui, mais du coup, les pharisiens, ils ont bien écouté tout ça. Ils ont servi cette peau de banane sur un plateau, si je puis dire. Donc, de deux choses l'une, soit il perd son autorité en tant qu'enseignant juif parce qu'il n'obéit pas à la loi, soit il condamne cette femme et le préfet romain, il va le prendre, il va le mettre en prison parce que c'est un hors-la-loi. Alors, vous conviendrez que c'est un piège qui est bien posé. Et maintenant qu'on a dit tout ça, moi, ce que je trouve assez ironique dans ce passage, c'est que qu'est-ce qu'il fait Jésus pendant tout ça? il est par terre et il crie sur le sol. Alors, je trouve ça, c'est pour ça que j'aimais bien cette image là. C'est fou quoi, il a un dilemme de taille devant lui, il est par terre, probablement auprès de cette femme, mais il écrit sur le sol. Alors s'il écrit sur le sol, moi je pense que quand on écrit quelque chose, on regarde ce qu'on écrit. Et du coup, en tout cas, il ne devait pas aller regarder. Mais il semble absent de cette scène, il semble absent de ce piège. On dirait qu'il a vraiment du détachement. Voilà. Il y a le piège qui est posé, il y a beaucoup d'enjeux, et lui, il est dans son truc. Et probablement que les pharisiens se sont dit, là, s'il se baisse et qu'il dit rien, il y a un aveu de faiblesse. On l'a coincé. Parce que s'il dit oui ou non à la lapidation, il est fichu. On l'a coincé. Et Jésus, il laisse du temps, il laisse le silence. Moi, je trouve que c'est plein d'enseignements pour nous, parce que face aux accusations, il est calme, il est posé, il ne s'excite pas, il est tranquille, il n'est pas dans l'urgence, il maîtrise la situation. Et les pharisiens, ils vont faire la bourde de leur vie, puisqu'ils vont insister. Ah, ils n'auraient jamais dû insister dans cette scène. Ils vont insister, et Jésus va leur dire ceci, au verset 7, « Comme ils continuent à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et en fait, cette réponse, elle est très subtile, parce que cette réponse, c'est une exigence de la loi de Dieu, qui dit que dans le cas d'un procès qui entraîne une lapidation, c'est le témoin du péché qui doit le premier jeter la pierre. En fait, ça se passait comme ça pour dire, si tu condamnes quelqu'un, tu es responsable, c'est toi qui jettes la pierre, tu ne peux pas te dérober à la situation. Donc il leur répond en leur citant la loi de Dieu, et ce qui est... fou dans ce passage, c'est qu'en fait il est en train de leur dire, je vous donne le feu vert, vous pouvez lapider cette femme à deux conditions. Première condition, c'est le témoin qui a vu la scène qui jette la pierre, et deuxième condition, que les pharisiens ne contesteront pas. Mais c'est ça qui est fou, il leur dit, moi je veux bien que vous jetiez la pierre, mais pour ça vous devez vous être parfaitement juste. À cette condition vous pouvez y aller, feu vert. Et c'est en donnant le feu vert à cette lapidation qu'il sauve cette femme. C'est ça qui est fou dans ce passage. J'ai dit, allez-y, allez-y. Donc, c'est le témoin qui jette la pierre, mais moi je rajoute une clause, les pharisiens ne l'ont pas contestée, et je vais vous dire pourquoi. Cette clause, vous devez être parfaitement juste. Si vous êtes parfaitement juste, je vous autorise à y aller. Alors, pourquoi les pharisiens n'ont pas contesté cette clause? Pourquoi ils ont bloqué là? Et alors ça, c'est quelque chose vraiment de fort dans ce passage. C'est parce que les pharisiens, c'était un groupe qui avait fondé leur identité sur le fait de pratiquer le bien et la justice. Et ils étaient assoiffés de justice. Ils condamnaient tout le monde. Parce qu'ils pratiquaient le bien, ils pointaient tout le monde du doigt en disant « c'est mal, je te condamne ». Ils étaient assoiffés de justice. Et Jésus leur dit « vous savez quoi? Très bien. Je vais vous donner toute la justice que vous voulez. Mais vous, vous devez être parfaitement juste. » Et comme ils avaient fondé leur identité sur le fait d'être juste, ils n'ont pas contesté. Le texte dit même qu'ils sont accusés par leur conscience. Alors, pour autant, ils ne se repentent pas. Ils partent. D'ailleurs, des plus âgés jusqu'aux plus jeunes, dit le texte. Alors là aussi, il y a plein de débats sur ça. Certains disent qu'en fait, les plus âgés ont compris plus vite qu'il fallait partir. Et les plus jeunes se sont dit, il y en a bien un qui va jeter la pierre. Ben non. Ben non, puisqu'il n'y en a pas un qui est parfaitement juste. Et je crois que ça met en garde, ce texte nous met en garde contre le fait de croire que ben parce qu'on va à l'église et qu'on recherche la grâce et la justice, ben, voilà, on n'est pas là pour juger, on est là pour faire grâce comme Jésus fait grâce. Et cette attitude me fait penser au verset de Romains au chapitre 2 qui dit « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. » Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Voilà. Si tu condamnes les autres, ben regarde-toi. Alors, voilà, Jésus leur dit, vous pouvez la lapider, mais il faut être parfaitement juste. Vous voulez de la justice, je vous en sers un plateau entier. Mais c'est indigeste pour eux, ils partent, ils ne contestent pas, hein. Ils ont compris. Il n'y a que Dieu qui est parfaitement juste. Alors, vous voulez juger à sa place, allez-y. Ils partent. Et puis il y a cette femme-là qui reste seule. Et elle est humiliée, elle est au cœur du temple, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Il n'y a ni son mari pour la défendre, ou pour en tout cas être là. Il n'y a pas son amant qui est accusé. Il n'y a que elle est seule. elle est instrumentalisée. Il y a une idée du rapport homme-femme dans ce passage qui est absolument catastrophique. Et elle a été instrumentalisée, cette femme, elle a été quelque part maltraitée. Et elle se retrouve seule face à Jésus. Et je pense qu'elle a dû se dire, lui, il est parfaitement juste. Lui, il est parfaitement juste. Lui, il peut me jeter la pierre sans avoir à se justifier. Et ça a dû cogiter dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, maintenant, je suis à sa merci. Cette femme qui était instrumentalisée par les hommes, je pense que ce rapport homme-femme qu'on décrit là, c'est terrible pour elle. Elle se dit, mais c'est un homme de plus, Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans ma vie, cet homme-là ? Il va m'instrumentaliser lui aussi, il va se servir de moi, il va abuser de moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais je pense qu'elle a compris que lui, il est en position de pouvoir juger. Et l'ironie de cette histoire, elle est double. Parce que premièrement, le seul qui pouvait condamner cette femme, le seul et unique qui pouvait condamner cette femme, c'est le seul et unique qui choisit librement de la pardonner. Le seul et unique est en position de condamner cette femme sans arrière-pensée, sans justification aucune, c'est le seul qui choisit librement de lui dire « moi je te condamne pas ». Et c'est vraiment, enfin, je pense que cette femme, ça a dû être un renversement dans sa tête. Parce qu'elle s'est dit, c'est le seul qui, lui, aurait pu me jeter la pierre. Et ça aurait été juste. Mais il n'a pas pris. Il a regardé. Il m'a laissé partir. D'ailleurs, le fait qu'il la laisse partir, c'est aussi une exigence de la loi de Moïse, puisqu'il n'y a plus deux témoins. Il faut deux témoins pour condamner quelqu'un. Donc en fait, c'est en accomplissant la loi de Dieu, pleinement, en pleine justice, qu'il va dire à cette femme, tu peux y aller. Alors évidemment, elle lui dit, va et ne pêche plus, hein. Il lui donne une direction, un envoi. Mais il lui dit, moi je te condamne pas. Moi je te condamne pas, je ne vais pas t'instrumentaliser. Tu n'es pas un objet pour moi. Je ne vais pas te faire du mal. Mais je vais te protéger. Jésus l'a protégé. Il s'est interposé entre ses ennemis et puis cette femme-là qui est en position de difficulté terrible. Et puis... Je trouve qu'on a là aussi dans ce passage un résumé de l'histoire du salut, puisque dans notre monde, les gens aiment se juger, se condamner en permanence. Mais c'est terrible, les gens ils se condamnent en permanence. On n'est pas d'accord sur tel ou tel sujet, ils se condamnent, ils se condamnent, ils se condamnent, ils se condamnent. Ils se font du mal alors qu'ils ne sont pas en position de juger. Et le seul qui est en position de juger, Dieu, il choisit de ne pas le faire. Il envoie son fils mourir à notre place, il dit « Moi, il y a le temps de la patience, je ne jugerai pas, il y a ma grâce, vous pouvez venir vers moi. » Le seul qui pourrait nous juger choisit librement de ne pas le faire. Et l'humanité qui n'est pas en position de juger le fait en permanence. Et ça, c'est un renversement. Moi, je pense que quand on voit quelqu'un qui est dans une difficulté, quand on voit quelqu'un qui pêche, quand on voit quelqu'un qui est par terre, qui chute, lui tendre la main, lui dire « moi je te condamne pas », c'est une révolution dans ce monde. Parce que dans ce monde, quand quelqu'un est à terre, on l'achève, on lui met des coups, on le condamne, on l'accuse. Mais quand on lui tend la main pour lui dire « moi, je te condamne pas », ça ne veut pas dire que j'adhère à tout ce que tu fais, mais toi, tu as une dignité, tu es un être humain, je te condamne pas. Et c'est ce que Dieu fait avec l'humanité, et je trouve que c'est extraordinaire, il y a une finesse. Dieu pourrait juger ce monde maintenant, à l'instant, sans avoir à se justifier. Il a choisi librement de ne pas le faire, il ne le devait pas. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Alors, pour terminer ce passage, je me suis posé une question simple. Si nous ne sommes pas appelés à juger, quand on voit quelqu'un chuter, quand on voit, même nous, quand on chute, souvent on peut être très dur envers soi-même, hein, on se juge. Mais quelle est l'alternative au jugement ? Quelle est l'alternative au jugement ? Parce qu'il n'y a pas 36 solutions. Dieu n'a pas dit « condamnez-vous les uns les autres ». L'alternative au jugement et à la haine, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Il y en a qui disent « ah oui, mais c'est naïf, s'aimer les uns les autres ». Oui, mais la seule alternative à ça, c'est quoi derrière ? C'est la haine et la condamnation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Soit on aime, soit on haït son frère. Alors ça peut être très radical dans les propos de Jésus, mais il y a vraiment cette idée-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile à faire, mais... l'alternative au jugement, et c'est ce que j'ai vraiment à cœur ce matin, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est pas un verset naïf, c'est pas un verset tout rose, c'est même dur parfois. Mais ce qui est extraordinaire dans le fait de s'aimer les uns les autres, c'est que quand même nous on chute, on sait que Dieu ne veut pas nous condamner, mais qu'il nous aime, tend la main, il nous fait grâce. Et une chose aussi qui est extraordinaire dans l'amour, vous savez, moi je le vois dans l'armée, hein, dans l'armée je vois beaucoup de choses, même dans le désert, j'ai vu des choses des plus belles aux plus noires, j'ai vu beaucoup de choses dans ce monde, dans les voyages. Mais quand on aime quelqu'un, même qui ne nous aime pas, quand on aime quelqu'un qui fait le mal, qui chute, on voit qu'il n'y a que l'amour qui peut le transformer. Il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a pas d'autre alternative. Pour transformer un cœur, il n'y a que l'amour. Ce n'est pas les coups, ce n'est pas la condamnation, il n'y a que l'amour. C'est la voie royale. C'est la voie royale. Et il y a une puissance dans ça. Il y a une puissance. Moi, je vois dans mon métier tous les jours des gens qui utilisent des armes en pensant que ça peut être aussi des choses puissantes qui peuvent régler des problèmes. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi puissant que l'amour, même sur le terrain. Même dans des pays de guerre, dans des dictatures, j'ai jamais vu quelque chose aussi puissant que l'amour pour transformer des cœurs. Parce que je crois que quand on a transformé ne serait-ce qu'une seule personne, on a transformé le monde. L'amour, c'est une âme puissante, plus puissante que tout ce qui peut exister, mais c'est surtout où nous n'avons pas d'autre alternative. Et Dieu nous dit, pour transformer ce monde, aimer les autres, il va y avoir des transformations extraordinaires. Je pense qu'on en a déjà vu autour de nous, on en verra encore. Je pense que la France en a besoin. Je pense que malgré la pandémie, il va y avoir de belles transformations. Mais il y a cet amour qui doit sortir là, qui est surnaturel, on fait appel au Saint-Esprit pour ça. Mais il y a une puissance dans l'amour. Et j'aimerais juste proclamer ce verset. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Il n'y aura rien de plus puissant que pour transformer. Si on se pose la question, il y a un tel, ça ne va pas, l'amour s'en transforme. Tout ça pour que notre Dieu soit glorifié. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Soyez bénis.